Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme de ce nouveau À vous les Burgiens, nous allons revenir sur l'application Stop Covid qui a été votée au Parlement la semaine dernière. Désormais, elle est disponible en téléchargement sur vos smartphones. Elle permet de savoir si vous avez été en contact avec un malade du Covid. Un chercheur de l'ENS Lyon nous expliquera son fonctionnement et ses limites. Le confinement a aussi touché les lieux déjà fermés, comme les prisons. Plus de parloirs, plus d'animation, mais la vie normale reprend peu à peu entre ces murs. Notre bénévole Dominique Chapelle a rencontré le directeur du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour parler de la situation dans la prison de Bourg-en-Bresse. Et enfin, nous partirons en reportage dans les coulisses du service de soins palliatifs de l'hôpital Fléria, où un lutin donne le sourire aux patients comme aux soignants.
Radio B.
Mais avant votre actualité, la deuxième phase du déconfinement commence cette semaine. Les bars, les restaurants, les plages, les bases nautiques et campings, ainsi que les théâtres, les salles de spectacle et les grands musées vont pouvoir rouvrir sous conditions, notamment le respect de la distance d'un mètre et le port du masque dans certains cas. Pour aller au cinéma, il faudra attendre encore le 22 juin. La circulation sera libre dans toute la France et nous pourrons normalement sortir de nos frontières nationales pour aller dans les pays européens à partir du 15 juin. Pour les frontières hors Europe, il faudra attendre encore un peu. Côté scolaire, tous les collèges et écoles primaires devront rouvrir la totalité de leurs classes pour accueillir leurs élèves. Et pour les lycées, réouverture progressive à partir du 2 juin. Ce qui reste interdit, les rassemblements publics de plus de 10 personnes, les manifestations sportives publiques et les grandes manifestations comme les festivals. Les discothèques et salles de jeux restent fermées au moins jusque fin juin. L'agglomération de Bourg débloque 2,5 millions d'euros pour l'économie. Concrètement, les entreprises vont pouvoir bénéficier du report des charges, comme le loyer ou les factures en eau, et une subvention de 1 000 euros sera versée aux entreprises touristiques et aux auto-entrepreneurs en difficulté. Une aide de 40 000 euros concerne aussi la filière de la volaille de Bresse. L'agglomération et le département veulent racheter les stocks de surgelés de volaille pour les revendre ensuite aux communes et aux restaurants à un prix inférieur. Stéphane Trompille, le député La République En Marche de l'Ain, a été condamné pour harcèlement sexuel par les prud'hommes. Le jugement a été rendu la semaine dernière. Une ancienne collègue l'avait accusé. Elle a dénoncé les propos inappropriés et sexistes du député à son encontre qui ont eu des effets sur sa santé. Stéphane Trompille a décidé de faire appel et le groupe La République En Marche lui a demandé de se mettre en retrait en attendant la fin des procédures judiciaires. L'association Sortir du nucléaire Bugey demande la fin de l'autorisation de l'ICEDA, l'installation de conditionnement et d'entreposage des déchets activés. Son délai de mise en service arrivait à son terme fin avril. SDN Bugey a décidé d'envoyer une lettre au ministère de la Transition écologique et solidaire et à celui de l'économie, ainsi qu'aux maires des communes à moins de 20 km de la centrale du Bugey pour mettre fin à l'autorisation de cette installation. L'ICEDA a pour but de conditionner et stocker des déchets radioactifs dans la centrale du Bugey. C'est la seule installation de ce type en France. Et les déchets proviendraient des 9 réacteurs EDF en cours de déconstruction. L'association alerte déjà depuis plusieurs années sur les dangers d'avoir ces substances nocives près du Rhône. Un jeune lynx blessé à Bellegarde fin 2019 a été relâché dans l'Ain. Pixel, c'est son nom, il avait été recueilli en détresse. Après s'être refait une santé au centre de sauvegarde Athéna dans le Jura, il a été remis en liberté à l'endroit où il a été retrouvé dans le Bugey. Le lynx est le seul grand félin sauvage d'Europe, il est menacé. Une centaine de spécimens vivent sur le territoire français, dont une trentaine dans l'Ain.
Radio B. Radio B.
L'application Stop Covid est désormais disponible sur vos smartphones. Elle permet, grâce au Bluetooth, de dire si vous avez croisé une personne atteinte du Covid-19. La CNIL a validé l'application et le Parlement a voté majoritairement en sa faveur. Mais certains chercheurs ont alerté sur les dangers et les limites de cette utilisation qui reste libre à chacun. Damien Stélé en fait partie, il est professeur à l'ENS de Lyon. Bonjour Damien Stélé.
Bonjour.
Vous êtes professeur en informatique à l'ENS Lyon et spécialiste en cryptographie. Un texte a été rédigé et signé par des chercheurs internationaux pour alerter contre les applications de traçage. Vous l'avez aussi signé. Qui souhaitez-vous mettre en garde avec ce texte ?
Alors, les applications de traçage, c'est un outil numérique qui n'est pas du tout anodin. Et en fait, on souhaite mettre en garde à la fois les pouvoirs politiques et la population contre les dangers que ça génère.
Parmi les applications de traçage en France, il y a l'application Stop Covid que le gouvernement veut toujours mettre en place. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette application ?
Ça vient en complément de ce que Olivier Véran appelle les brigades. Donc les brigades servent à contrôler la propagation de l'épidémie en faisant une interview avec les nouveaux malades pour faire le bilan de qui ils ont croisé les 14 derniers jours pour pouvoir les prévenir. Donc une des difficultés de ça, c'est que quand vous êtes interviewé pour retracer vos contacts, vous ne pouvez pas donner des informations sur les personnes que vous ne savez pas identifier, par exemple d'autres clients d'un magasin que vous avez visité. Donc l'application de contact, elle vient en complément de ça pour stocker les contacts que vous croisez mais que vous ne connaissez pas. Donc ça se fait via les communications Bluetooth par téléphone. Donc le principe, hein, c'est que le téléphone enregistre l'identifiant des personnes que vous croisez via Bluetooth, et quand il y a un malade, la donnée de qui vous avez croisé est remontée à un serveur central pour ensuite informer les personnes croisées qu'elles sont potentiellement contaminées.
Quels sont les risques de Stop Covid sur nos données personnelles notamment ?
Il y a des risques qui sont communs à toutes les applications de traçage. Il y en a qui sont spécifiques à Stop Covid, qui sont plus prégnants avec une solution de type Stop Covid. Donc les risques communs à toutes ces applications de traçage, que ce soit Stop Covid ou celles retenues en Allemagne ou proposées par Apple et Google, il y a par exemple l'espionnage de voisinage. Donc, en tant qu'individu, si vous utilisez Stop Covid, vous pouvez essayer de savoir qui est malade dans votre voisinage. Ça, c'est un risque qui est commun à toutes ces applications. Un autre risque commun, c'est l'utilisation de fausses alertes de contamination. Et enfin, un risque qui est spécifique à Stop Covid, ou qui est plus prégnant pour Stop Covid, c'est la surveillance de masse. Hein, c'est-à-dire un certain nombre de données importantes et plutôt confidentielles sont remontées au niveau de l'État. Et donc, il y a un risque que ces données soient utilisées pour faire autre chose que ce qui est prévu.
Donc, concrètement, ce serait quoi ? Des contacts qu'on a sur nos téléphones, des photos, des messages ? Qu'est-ce qui pourrait remonter ?
Quand on est malade, ce qu'on remonte au serveur central, c'est la liste des personnes qu'on a croisées. En tout cas, la liste des identifiants des personnes qu'on a croisées. Donc ça, au niveau du serveur central, ce que ça permet de reconstruire, c'est ce qui s'appelle le graphe social, ou le graphe des relations entre les différents individus. Donc si vous êtes malade, le serveur central saura quelle personne vous avez rencontré avec quelle fréquence. Donc ça, c'est un graphe c'est une information qui est très riche et elle permet de faire beaucoup de choses. Donc par exemple, vous pouvez utiliser cette information pour tracer un individu, pour par exemple découvrir les sources d'un journaliste. Donc ça, c'est une possibilité avec le plan social. Une autre possibilité, c'est de savoir qui discute avec qui pour faire de la propagande ciblée pour faire basculer une élection. Ça, ça a eu lieu, par exemple, avec Facebook et Cambridge Analytica. Donc c'est des risques qui sont... ça n'arrive pas forcément très souvent, mais quand ça arrive, ça a un impact très fort.
Et donc ces données, elles seront collectées, il n'y aura que l'État qui pourra les voir ?
A priori, oui. Mais mettre en place ça, ce n'est pas forcément facile. Donc... En sécurité informatique, on va dire qu'il y a un unique point de faiblesse ici. C'est-à-dire, comme toutes les données importantes sont au même endroit, des hackers mal intentionnés, ils savent exactement quoi cibler pour accéder aux données. Donc, dans l'utilisation légitime, il n'y aurait que l'État et un nombre restreint d'individus au sein de l'État. Dans une utilisation non légitime, on peut imaginer que d'autres individus au sein de l'État y aient accès, des services de police, des services de renseignement, ou que ce soit hacké par des organisations extérieures ou d'autres États. Ce risque de surveillance de masse est moindre dans le cas d'une solution comme celle retenue par l'Allemagne. Parce que les données, ce graphe social n'est pas stocké dans un endroit précis. Donc à moins que Apple et Google pompent les données, ce qui pourrait arriver, si on oublie ce risque-là, les données, il y a des bouts du graphe qui sont sur chacun des téléphones. Donc c'est plus difficile de reconstituer l'ensemble du graphe. Les attaques sont plus difficiles à mettre en œuvre.
En Allemagne, il y a une application un peu sur le même principe qui va être créée, mais en lien avec Google et Apple. En France, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, a indiqué que l'application se ferait sans Apple ni Google. Comment va-t-il faire dans ce cas ?
L'approche française diffère de l'approche allemande du point de vue de qui calcule le facteur de risque. Donc dans le cas de l'approche retenue par l'Allemagne, le facteur de risque, il est calculé en local sur le téléphone. Dans le cas de Stop Covid, de l'approche retenue par le gouvernement français, le facteur de risque est calculé par un serveur central. Ça signifie en particulier que le serveur central a plus d'informations que dans le cas de l'approche retenue par l'Allemagne. Ça pose des problèmes avec les systèmes d'exploitation Apple et Google parce que il faut remonter des informations collectées par le Bluetooth à un serveur central. Et ça, c'est potentiellement une faille de sécurité. Donc ça explique le bras de fer qu'il y a entre le gouvernement français et Apple et Google. De ce que je comprends, Apple et Google ne vont pas céder là-dessus. Donc en un certain sens, ils contribuent à protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Et donc le gouvernement français va devoir trouver des solutions pour contourner le problème. Donc les solutions techniques, à ce stade, ne sont pas claires du tout. Il y a d'autres pays qui ont pris des approches similaires, comme Singapour ou l'Australie, et ça fonctionne très mal sur les iPhones, notamment.
Donc quand Cédric O dit « on va faire sans Apple ni Google », c'est pas forcément en vrai, il va se heurter à un mur à un moment, c'est ça que vous dites ?
Alors, il va y avoir un mur technique, en particulier comment faire fonctionner cela sur les systèmes d'exploitation actuels. Il y a un mur technique. Ensuite, sans Apple et Google, c'est un leurre, parce que de toute manière, Apple et Google contrôlent les systèmes d'exploitation. Donc on se protège aucunement de Apple et Google en prenant la solution envisagée par le gouvernement.
Et une application de traçage donc pour lutter contre le Covid-19 et qui respecte la vie privée des gens, est-ce que c'est possible ?
Alors c'est très compliqué. Donc, avec toutes ces solutions traçage de proximité qui repose sur le Bluetooth, il y a des risques qui sont intrinsèques. Donc un risque que je mentionnais par exemple, c'est les fausses alertes malveillantes. Donc je prends un exemple concret. Mettons que vous passiez un examen de médecine, le concours de médecine en fin de première année. Le premier jour, vous arrivez avec le téléphone d'un malade et vous le mettez à l'entrée de l'amphithéâtre ou de la salle d'examen. Okay, donc tous les autres étudiants passent devant et le soir, ils ont une alerte comme quoi ils sont potentiellement à risque. Le lendemain, ils sont soit confinés, soit chez le docteur. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances d'être bien classé au concours de médecine. Voilà, donc ça, c'est un exemple sur le concours de médecine, mais il y en a plein d'autres. Hein. On peut imaginer plein d'exemples de ce type où on pénalise un type de population. Et ces risques, ils sont intrinsèques à toutes les applications de traçage. Donc ça, ce risque-là, il existe aussi bien dans l'application retenue en Allemagne qu'avec Stop Covid. Il y a de la recherche qui a lieu sur le sujet. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont très actifs sur cette thématique-là. Donc c'est possible que dans un avenir proche, il y ait des solutions plus satisfaisantes qui émergent. Mais à ce stade, c'est pas terrible, quoi.
Damien Stélé, professeur à l'ENS de Lyon. Dans les prisons, le confinement, c'est tous les jours. Mais cette période de pandémie a aussi réduit les droits des prisonniers. Plus de parloirs, ni d'activités. Au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, il n'y a pas eu trop de remous, contrairement à certaines prisons où ont eu lieu des mutineries, comme à celle d'Uzerche en Corrèze. Notre bénévole Dominique Chapelle a rencontré Bruno Lafaille, directeur du SPIP. Il nous explique la situation à Bourg.
Bonjour, je suis dans le bureau de M. Lafaille, qui dirige le SPIP pour le département de l'Ain. Par SPIP, entendez Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Nous allons évoquer la problématique de la pénitentiaire face à la période singulière que nous vivons toutes et tous en ce moment. Bonjour M. Lafaille.
Bonjour Monsieur Chapelle.
Merci de recevoir Radio B dans ces conditions particulières pour répondre à nos questions. Pour la bonne compréhension des auditeurs, en quelques mots, quel est le rôle du SPIP dans l'administration pénitentiaire ?
Le rôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, appelé plus couramment SPIP, est un service qui prend en charge l'ensemble des condamnés à une mesure pénale qui sont domiciliés dans l'Ain, donc soit qui exécutent leur peine à la prison, au centre pénitentiaire, ce qui englobe environ 700 personnes, soit sur la partie milieu ouvert, c'est-à-dire des personnes qui sont soit condamnées à une peine alternative à l'incarcération, soit des personnes qui ont exécuté une partie de leur peine en détention et pour lesquelles il reste une sanction à exécuter dans la communauté. Ce qui représente aujourd'hui en milieu ouvert à peu près 1500 personnes. 1500 à l'extérieur et 700 à l'intérieur.
Et en ce moment un petit peu singulier, elle se traduit comment votre activité ?
Alors pendant toute la période de confinement, nous avons réduit de manière très importante l'activité du service pour respecter les consignes gouvernementales, qui étaient des consignes de confinement pour l'ensemble de la population, et notamment sur le confinement des travailleurs. Le rôle de la direction a été à un moment donné de déterminer quels étaient les actes essentiels au maintien du service public pénitentiaire. Donc, en milieu ouvert, pratiquement la totalité des entretiens ont été supprimés. C'est-à-dire que sur cette période-là, nous n'avons fait que 4 entretiens physiques.
4 entretiens sur les
deux mois. Ouais. Ce qui est complètement nouveau, parce que tous les jours, on effectue une trentaine ou une quarantaine d'entretiens. Et puis en milieu fermé, n'ont été effectués que les entretiens des personnes qui rentraient en détention et qui étaient libres à ce moment-là.
D'accord.
Donc, ce qui est quand même une activité complètement nouvelle pour nos services. Mais néanmoins, cette activité-là, elle s'est maintenue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, d'un côté, effectivement, le nombre d'entretiens a diminué en physique.
Oui.
Mais sur le milieu ouvert, tous les agents ont fait des entretiens téléphoniques.
D'accord, donc ouais. C'était un petit peu du télétravail.
C'était du télétravail.
Une forme
de télétravail pour à la fois que les condamnés sachent pourquoi ils n'étaient pas convoqués au service.
Bien sûr.
Qu'ils ne soient pas inquiets en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ? On risque de me reprocher de ne pas m'être déplacé ». Et puis, deuxième objectif, c'était de vérifier aussi que pendant cette période de confinement, les condamnés continuaient de respecter certaines obligations. Et on a priorisé le contact régulier avec les personnes qui étaient condamnées pour des violences conjugales.
On en a beaucoup parlé.
On avait des grosses craintes au niveau institutionnel et au niveau du service à ce que la période de confinement renforce les passages à l'acte. Donc, d'une manière un petit peu générale, en tout cas sur le département de l'Ain, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une recrudescence des violences conjugales, je m'entends, pour les personnes qui étaient déjà suivies et prises en charge par le service.
D'accord.
Je fais la différence entre des violences conjugales qui ont pu être réalisées alors que la personne n'était pas suivie par le service, et puis des violences conjugales qui auraient pu être réitéré par des condamnés. Et sur cette dernière partie, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une recrudescence des violences conjugales.
La pandémie s'est traduite de manière exponentielle en France. Les cas constatés ont augmenté rapidement. Les décisions de l'État, en fait, ont suivi cette évolution. Qu'est-ce qui a été mis en place au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, plus particulièrement ?
Alors, plus particulièrement au centre pénitentiaire, à partir du 15 mars, date du confinement général, la prison a été aussi confinée. C'est-à-dire que toutes les activités au niveau du centre pénitentiaire ont été supprimées.
Toutes ?
Toutes. Seuls les professionnels ont pu rentrer au centre pénitentiaire.
Par professionnel, vous entendez qui ?
De l'administration pénitentiaire et du gestionnaire privé qui assure tout un tas de prestations à l'établissement, notamment les prestations de ménage, les prestations liées à l'achat de la cantine pour les détenus. Donc à partir du 16 mars, pour être précis, il n'y a plus d'activité de travail, plus de formation professionnelle.
Oui.
L'éducation nationale a supprimé tous ses cours. Toutes les activités socio-éducatives ont été supprimées. Et un point très important, c'est que les parloirs ont été également supprimés. C'est-à-dire que depuis le 15 mars jusqu'au 22 mai, il n'y a plus aucune visite des détenus. Par leur famille.
Par leur famille. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on entend par là aussi la visite des avocats ?
Les avocats ont pu maintenir leurs activités. À la différence notable, c'est que comme l'activité judiciaire a également été, pour une grosse partie, largement aménagée, avec uniquement le traitement des urgences, il y a eu peu de besoin de rencontres entre les avocats et les condamnés.
D'accord.
Donc ce qui fait que vraiment toute cette activité de rentrée et de contact avec l'extérieur pour les détenus a été limité de manière très importante. Je dois vous avouer que au niveau national et au niveau local, l'ensemble des professionnels a été très très inquiet sur cette baisse d'activité et sur l'absence de contact. Et on doit avouer avec très très grand étonnement que la population pénale a été très très compréhensive de ces règles de confinement, et les familles également, puisque l'ensemble des familles ont très bien compris
la problématique
et de la nécessité d'empêcher le virus de rentrer en détention.
Donc
on était vraiment dans l'idée de compréhension de la fermeture de l'établissement sur lui-même pour protéger les détenus de l'arrivée du coronavirus.
Justement, je voulais venir plus tard, mais on va en parler tout de suite, parce que vu de l'extérieur, déjà en temps normal, on imagine difficilement l'ambiance qui peut régner dans un milieu fermé, confiné en fait, comme celui d'une prison au sens large du terme. Et la crise sanitaire a dû rajouter du confinement au confinement. Les craintes, vous venez de les évoquer, il y en a eu d'autres ?
On a eu des craintes de mutinerie.
Oui.
Comme il a pu se dérouler dans certains établissements au niveau européen, notamment en Italie, il y a eu des grandes mutineries au moment de la fermeture des prisons.
Ça a fait la une de l'actualité aussi.
Exactement, et puis en Amérique du Sud,
aussi,
il y a aussi des mutineries. En France, mis à part quelques
rares cas
de mutineries qui ont été, alors, il ne faut pas mal le considérer, qui ont été plus symboliques que très violente. En tout cas, l'ensemble de la population pénale a été très, très
compréhensive. C'est ce que vous en retenez. Oui.
C'est ce qu'on en retient.
Comme premier jugement.
Oui. Et puis la deuxième chose, que effectivement, sauf, je disais que toutes les activités avaient été suspendues, hormis le sport, qui a été maintenu en détention.
Pendant le confinement.
Pendant le confinement, uniquement à l'extérieur sur le terrain de sport. Et puis, ce qu'on appelle les promenades, c'est-à-dire la sortie quotidienne des détenus qui ont pu prendre l'air et se rencontrer entre eux.
Toutes ces activités qui ont été maintenues, enfin les deux essentielles comme le sport et la promenade, ça a dû nécessiter des mesures aussi particulières et qui ont bousculé le quotidien.
Oui, qui ont bousculé le quotidien parce que les détenus ont été moins nombreux. Mais je dois avouer que le chef d'établissement a géré avec son équipe à la fois de direction le personnel de surveillance et le personnel d'encadrement intermédiaire de manière très, très apaisée cette période-là. Je sais que le chef d'établissement a beaucoup consulté les détenus pour leur demander un petit peu ce qu'ils pensaient de l'organisation.
Ils ont participé, ce que vous, si oui, je le traduis autrement, vous êtes en train de me dire qu'ils ont participé plus ou moins,
ou
leur avis a été plus ou moins pris en compte pour cette période-là de confinement.
Oui, c'est des habitudes qui sont régulières, hein, l'établissement, et en tout cas la loi pénitentiaire qui a été votée en 2009 met en place des organes de communication entre l'équipe de direction, le SPIP, et la population pénale de manière régulière. Pendant la période de confinement, l'équipe de direction a souhaité rencontrer les détenus toutes les semaines en collectif pour à la fois expliquer les mesures et puis analyser un petit peu le souhait de la population pénale, ce qui a permis d'organiser des promenades de manière un petit peu originale, avec un temps de promenade qui a été augmenté tous les jours, et puis d'organiser un petit peu des temps de rencontre entre détenus qui s'entendaient bien, plutôt que d'avoir une vision très
administrative,
en disant c'est le couloir gauche qui sort à un instant, et après le couloir droit. On a été dans une organisation plus souple, où on a demandé un peu aux détenus avec qui ils souhaitaient être sur la promenade, ce qui a permis d'apaiser beaucoup de tensions. Et dans la réalité, c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a eu aucun élément négatif en détention.
Le virus, lui, il connaît pas les frontières, il connaît pas plus que ça les murs de la prison. Si on aborde le souci des problèmes médicaux qui sont liés à la Covid, et en dehors ou en dehors du virus, est-ce qu'ils ont pu être traités?
Alors, d'une manière très satisfaisante, je le dis ici, aucun détenu du centre pénitentiaire n'a été atteint par le Covid.
Ah, déjà, c'est une première bonne nouvelle, oui.
C'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que l'ensemble des mesures de confinement qui ont été mises en place, du respect des mesures sanitaires, a été très efficace, puisque, je vous le dis, aucun détenu à l'intérieur n'a été atteint. Le seul détenu qui a été atteint du Covid, c'est un détenu qui était au quartier de semi-liberté, qui tous les jours allait travailler et qui était hébergé le soir au quartier. Donc comme dans les règles de la population générale, dès les premiers symptômes, cette personne a été prise en charge par l'équipe médicale du centre pénitentiaire. Et puis, dès que le diagnostic a été posé, et pendant la période de suspicion, cette personne a été mise en quarantaine, en quatorzaine.
Oui, on va l'appeler comme ça.
On l'appelle en quatorzaine, avec le respect des mesures barrières, port du masque pour les surveillants qui intervenaient pour lui donner le repas, et puis pour lui, port du masque pendant les 14 jours.
Justement, en parlant des surveillants, c'est un métier qui demande des aptitudes spécifiques. Il a fallu aussi, là, les adapter aux circonstances. Vous avez des retours des surveillants? Comment ça s'est passé?
Alors, pour le coup, la surveillance des détenus a été une mesure prioritaire de l'administration pénitentiaire, forcément, parce que c'est une mission qui ne peut pas s'arrêter. Elle est effectuée 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc l'activité des personnels de surveillance a été maintenue sur toute cette activité, sur toute la période. Alors moi je crois qu'il faut leur rendre hommage, hein, parce qu'ils ont été fortement impactés par la maladie, parce qu'ils ont dû continuer de travailler sans être malade eux-mêmes, mais avec quand même le confinement de la population pénale, de la population générale, où eux, comme les personnels du SPIP, ont continué à venir travailler. Ce qui a un peu facilité leur tâche, c'est l'absence d'activité au sein de la détention. Donc ils ont eu une activité réduite qui leur a permis de réinvestir le temps sur beaucoup de temps de dialogue avec les détenus. Ce qui explique aussi pourquoi je pense que la détention a été aussi très calme.
Là, on a beaucoup parlé, et vous l'avez certainement entendu, des masques.
Oui.
Il en faut pas, oui. Il y en a, il n'y en a pas. L'histoire nous dira ce qu'il en était réellement. Qui est-ce qui porte des masques derrière les murs?
C'est une question qui a évolué au fur et à mesure de la doctrine ministérielle et présidentielle. Pour être très clair, je crois que face à la pénurie de masques, ou en tout cas telle qu'on l'a ressentie dans la population, on a bien compris qu'au début de l'épidémie, il fallait que les médecins et tous les personnels médicaux puissent bénéficier de masques. Et l'administration pénitentiaire a été dans ce mouvement-là. C'est-à-dire que les masques n'ont été distribués à l'établissement qu'au personnel médical.
Qu'au personnel médical, ni aux surveillants, ouais. ni aux détenus.
Mais très rapidement, je crois qu'à partir du 22 mars, me semble-t-il, l'ensemble du personnel pénitentiaire en contact avec les détenus a eu un masque.
Le 11 mai, tout le monde l'attendait.
Oui.
On l'attendait tous. Ça s'est traduit comment au centre pénitentiaire? Des activités ont repris?
Le 11 mai, les activités n'ont pas repris. Parce qu'on a été dans l'attente des consignes gouvernementales jusqu'au 8 mai.
Ah, donc,
comme les consignes sanitaires ont été communiquées très tardivement et que la question du déconfinement n'a été validée que le 10 mai, les activités n'ont pas réellement repris telles qu'avant à partir du 11 mai. Néanmoins, elles ont repris pour partie, puisque le 12 mai, une activité de formation professionnelle a pu reprendre. C'est une formation qui avait été interrompue par le confinement. Et puis, les ateliers ont repris le 13 mai, et les activités de parloir ont repris également à partir du 14 mai. Donc depuis le 14 mai, les familles peuvent revenir au centre pénitentiaire. Elles reviennent de manière aménagée, puisque les locaux ont été aménagés de manière différente. Et je crois que les familles sont encore très protectrices de leur famille en détention.
On peut le comprendre.
Puisque le retour des parloirs se fait de manière très parcimonieuse. Pas parce que l'administration n'est pas en capacité de les mettre en œuvre, mais parce que les familles sont encore très inquiètes.
On n'en est pas encore à l'heure du bilan, et ça sera ma dernière question, mais à chaud, en ce vendredi 22 mai, quels sont les premiers points qui vous viennent à l'esprit?
Les premiers points qui me viennent à l'esprit, c'est que, d'une manière globale, en tout cas l'administration pénitentiaire face à un risque sanitaire important, a réussi à protéger à la fois la population pénale et ses personnels, ce qui était quand même une gageure, me semble-t-il, assez importante, puisque parmi les personnels, peu de personnels ont été malades. Au niveau national, très peu de détenus ont été malades, et en tout cas, au niveau local, il n'y en a pas. On a été en capacité de réinventer des modes de travail, par le télétravail, notamment, par l'appel téléphonique, des personnes en milieu ouvert.
La participation des détenus, vous parliez d'un comportement ou pas de problème véritablement rencontré, c'est peut-être aussi un enseignement à noter sur un cahier.
Je pensais que ce qui est à noter, c'est qu'il faut avoir confiance dans le sens civique de tout le monde. Et que même en détention, les détenus se sont sentis complètement intégrés à ce confinement. Alors eux sont confinés de manière très visible depuis longtemps. En tout cas, la détention, c'est un confinement
de fait.
De fait. Je crois que l'ensemble de la population a alors touché de manière un petit peu symbolique ce que c'est que l'enfermement non souhaité, avec des horaires de sortie tels qu'on pourrait les analyser comme étant des promenades. Mais en tout cas, aujourd'hui, le confinement, il a été connu par l'ensemble de la population. Et peut-être que ça va faire naître un petit peu une analyse partagée entre la population générale et puis la détention de ce qu'est le confinement. Aujourd'hui, j'entends que certaines personnes à l'extérieur ont du mal à se déconfiner. On sait que beaucoup de détenus ont la crainte de la sortie. Donc je me dis peut-être qu'on va arriver, même professionnellement, à mieux comprendre ces angoisses de sortie.
On a appris que ça s'appelait le syndrome de la cabane.
Oui, ou le syndrome de Stockholm.
Aussi, oui. Eh bien, merci Monsieur Laffey d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le responsable du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les départements de l'Ain. Et encore merci d'avoir répondu à Radio B.
Merci.
Une interview réalisée par notre bénévole Dominique Chapelle. Avant d'aller dans les coulisses de l'hôpital Fleuria, on écoute Tom Frager avec « Give me that love ».
Pas l'attitude, pas la volonté. Allongé sur mon lit, je sais qu'il faut que je songe à me lever. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Va par là, dis pas si, fais pas ça. J'ai pas pu quand j'ai dû, pourtant je l'ai tenté mille fois. Tenter l'air de la ville, le quotidien qui défile. Moi je respire quand se dessine enfin ma suite Caraïbe. Alors je prends l'instant qui passe et prends le temps de le voir qui trace sans jamais baisser les bras, jamais baisser les bras, jamais. Keep on walking, yeah, I keep on walking. Mais moi j'écoute la pluie et je regarde les gens se dépêcher. Je t'attendrai toute la vie s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Je t'attendrai toute la vie s'il le fallait, s'il le fallait. That love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love. Give me that love, give me that love, give me that love.
C'était Tom Frager avec Give Me That Love.
Radio B.
Et nous partons maintenant dans le service de soins palliatifs de l'hôpital Fleuria. Nous avons suivi, avant le confinement, Emmanuel de l'association Nétoile. Il vient donner un peu de magie aux patients comme aux soignants.
Deux après-midi par semaine, Emmanuel quitte sa vallée du Suran et va à l'hôpital Fleuria, dans le service oncologie ou dans le service soins palliatifs où il se rend aujourd'hui. Au fond d'un couloir, dans une petite salle, après un bon quart d'heure de préparatifs, Emmanuel disparaît pour laisser place à un être fantastique qui va apporter un peu de magie aux patients et aux soignants.
Là, j'installe mon petit bureau de maquillage et puis tout doucement, je vais mettre une petite musique qui m'aide à rentrer dans le personnage. Et puis je me maquille, je me transforme en ce lutin. En fait, la difficulté la plus grande, c'est d'arriver à être dans l'ici et maintenant en laissant tous les soucis que j'ai dans ma vie derrière moi et en étant vraiment présent à, voilà, sans penser ni à l'avenir ni au passé, juste être là, quoi. Et surtout dans la légèreté. Voilà.
Je vous laisse vous préparer.
Merci.
Nétoile, c'est la formation qu'il a suivie à Paris. Elle a été créée par une art-thérapeute. Ils sont une douzaine en France. Une continuité logique pour lui qui a déjà une formation de clown.
J'aime bien la relation humaine en général. Et là, ça donne une dimension très particulière parce qu'en fait, étant un personnage féerique, je suis en même temps bien en chair et en os, mais en même temps, je suis quelqu'un qui n'existe pas. Et du coup, la relation, elle s'effectue beaucoup plus rapidement. On peut aller très loin avec les gens dans ce qu'ils ont envie de dire, de confier. Et puis on peut aussi les décaler vraiment de la souffrance, même à des moments, ou de la maladie, pour les emmener dans les plus beaux moments de leur vie. Ou voilà. En fait, on n'amène pas un spectacle, on construit vraiment avec les gens. C'est vraiment une construction... On amène juste une boîte à outils, quoi. C'est une construction avec les gens, vraiment. C'est très particulier.
Oreilles pointues, bonnet et costume bleu turquoise, une petite touche de paillettes sur le visage, le voilà fin prêt. Et pour ajouter au féerique, il enclenche son enceinte pour diffuser des sons d'oiseaux depuis sa petite malle au trésor qu'il traîne derrière lui.
Dedans, j'ai pas mal de choses, de la musique, des poèmes, plein de trucs qui permettent à aider à l'imaginaire. J'ai même un mini projecteur vidéo, puis des pierres, des plumes.
Donc là, vous êtes devenu quoi maintenant, après cette phase de maquillage?
Alors maintenant, je suis devenu Unam le lutin. Il y a même des services où les médecins me préfèrent en lutin qu'autrement, parce que... Ils ont plein de trucs à me dire, autrement ils me parlent pas trop, quoi. C'est très drôle. Voilà. Donc là maintenant je suis dans ce personnage en même temps dans la profondeur et la rencontre et en même temps dans une grande légèreté où tout est important mais rien n'est grave. Le costume, le maquillage aide au décalage. Je pense que je ne serais pas dans la même attitude si j'étais en moi, Manu, dans la relation d'homme à homme. En fait, la surprise ouvre une faille spatio-temporelle, voilà. C'est un peu ça, c'est rigolo.
Le lutin quitte enfin sa salle et part faire le tour des chambres comme bon lui semble. Les patients sont tous différents, ils peuvent être en convalescence comme en fin de vie. Il faut s'adapter et surtout laisser la magie opérer. Dans cette chambre, le patient est trop fatigué pour s'exprimer.
Je sais que quelque part dans tes voyages lointains, dans tes rêves, je suis là présent avec toi. Il est en fin de vie et... Je lui ai joué de la sansula. Alors, la sansula, c'est un petit instrument qui, au départ, part d'un instrument africain. Et c'est un instrument qui est très doux et qui, quand on le pose sur le corps, résonne à l'intérieur. Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules. Et ça fait beaucoup de bien aux gens, ça les détend.
Un peu plus loin, il rencontre un patient et sa compagne avec qui il a déjà échangé il y a plusieurs semaines. Le lutin aide aussi les familles, Isabelle en est ravie.
Il m'a fait du tam-tam dans mon dos, j'ai ressenti des choses. Il m'a apporté beaucoup en peu de temps, ce monsieur. Je trouve qu'on a autant besoin, nous les proches, de rencontrer des gens comme ça, parce que ça nous fait un peu voyager, on oublie un peu pourquoi on est là, le temps d'une discussion. Et c'est aussi un bon moment de partage. Puis de par son costume, son maquillage, voilà, c'est... Voilà, je ne sais pas comment dire, c'est du rêve.
Le compagnon d'Isabelle, Jean-François, est à nouveau hospitalisé pour un cancer depuis peu. Lui aussi apprécie la présence de ce passeur de rêve.
Ah bon, je pense que c'est très bien. C'est sûr qu'il nous apporte de la douceur, de la chaleur, ça c'est sûr. Mais il a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose de plus. Mais je ne sais pas... Comment y interpréter ?
Il n'y a pas de mots en humain.
Et voilà.
C'est ça.
Oui, il n'y a pas de mots en humain. C'est dans un autre monde, on va dire.
Quand la maladie est là, en fait, c'est important de pouvoir lâcher prise et de dire tout ce qui est compliqué.
Voilà.
Tu sais, on avait même parlé que la maladie, ça embarque dans des pensées négatives,
bien
ça
sûr.
Fait penser à la mort. Ça.
Bien sûr.
Tu te rappelles de tout ça, on avait parlé. Mais en fait... C'est des trucs qui tournent à l'intérieur. Donc en fait, c'est un peu important de pouvoir l'exprimer, le sortir, le partager.
Bien sûr.
Et bon, les soignants, ils sont en capacité de ça, mais souvent, ils courent un peu.
Oui, même beaucoup.
Tiens, mets ta main comme ça. Tourne là, dans le centre. Donne ta main. Fermez vos yeux.
Voilà.
Vous pouvez les rouvrir.
Oh, c'est génial.
Oh, regarde.
Oh, que c'est beau.
C'est beaucoup d'émotion, ça.
Un petit lotus de couleur.
Eh bien, écoute, je le prends avec beaucoup de bienveillance.
Les amis, continuez bien votre chemin.
Le nettoie l'émerveille les patients, les familles, mais aussi les soignants, parfois stressés. En début d'après-midi, notre lutin décide d'aller à la salle de réunion où le personnel se rassemble. Après avoir dessiné au rouge à lèvres deux cœurs sur les vitres, il entre pour les emmener en voyage.
Imaginez-vous dans ces petits sentiers qui montent. Tu sais, ces petits sentiers qui montent dans la forêt. La forêt que tu veux, celle que tu aimes. Où les feuilles parsèment le sol, ça peut être l'hiver. Où le gel craque les branches. Où la blancheur est partout. Ça peut être le printemps. Où les bourgeons éclatent, le soleil qui naît, ça peut être l'été.
On n'est pas juste animateur, voilà. Du coup, d'emmener la légèreté auprès des soignants, de prendre soin d'eux. Des fois, on voit une aide-soignante, une infirmière ou un médecin qui est fatigué, qui en a plein les pattes, et on le prend à part, on lui fait une petite séance de relaxation. En fait, c'est important parce que ça permet aux gens de souffler et puis aussi de pouvoir s'approprier ce genre de technique et de pouvoir le reproduire eux-mêmes quand ils sentent que ça va pas, même quand je suis pas là. Et je fais la même chose avec les gens qui sont malades. Le but, c'est d'arriver à ce que les gens arrivent à reproduire ce qu'on a fait ensemble, même quand je suis pas là. C'est pour ça, souvent, que je laisse un petit objet, une plume de légèreté ou autre chose. Parce qu'en fait, ça leur permet de, en voyant l'objet, de se dire « Ah oui, on avait fait ça, du coup, on peut le reproduire. » Ouais. Et ça marche.
Du côté des soignants, la présence de ce personnage est bien appréciée. Christelle, infirmière.
Il nous apporte beaucoup de légèreté, comme une parenthèse, on pourrait dire, dans notre journée de travail, puisqu'il intervient comme ça auprès des soignants aussi, sur des petits moments dans la journée. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de nous évader sur un temps très court et du même coup de recharger un petit peu les batteries et de se sentir ressourcé de l'intérieur pour pouvoir continuer... à traverser ce qu'on traverse. On ne pourra jamais mesurer ce que ça a modifié dans la journée des gens, mais tant bien même que c'est qu'un petit moment dans la journée qui leur permet d'être mieux, d'être plus léger, d'être un petit peu plus à distance de la maladie, donc c'est déjà très précieux.
Stéphane Follacher, docteur au service de soins palliatifs.
Sa présence réconforte non seulement les patients et les familles, mais
permettent aussi un apaisement dans l'équipe. Mais lui apporte en plus quelque chose de poétique et de à la fois décalé et très complémentaire. Et c'est une richesse de plus, quoi. Souvent, d'ailleurs, c'est les patients qu'on imaginerait les moins réceptifs, entre guillemets, sont assez souvent ceux qui se transforment le plus après son passage.
Sandrine est infirmière.
Vous êtes déjà passée dans une chambre avant et après son passage à ce passeur de rêve. Est-ce qu'il y avait eu une différence dans...
Oui, c'est comme déjà parfois un grand sourire, comme un rêve qu'ils auraient eu et qui était magnifique. Parfois, il y a des patients, on a du mal à rentrer en contact et on les découvre autrement grâce à son passage. Et voilà, ils se révèlent.
Ouais. Vous, en tant que personnel soignant, c'est dur de parler de la mort avec des gens qui y sont en fin de vie ?
Après, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, donc psychologue, médecin, il y a psychomotricienne, il y a les bénévoles, et puis les soignants paramédicaux, soignantes, infirmières. On y va tous avec notre personnalité, et moi je parle pas de la mort avec eux, sauf s'ils ont besoin d'en parler, mais sinon je reste dans la vie, le sourire, et voilà.
Une fois sa tournée terminée, Emmanuel retrouve son identité après s'être changé, la tête remplie des échanges qu'il a eus cet après-midi.
Je me sens en même temps fatigué, physiquement, bien sûr, mais en même temps plein d'énergie de cette rencontre avec les gens. Alors c'est sûr que je ne pourrais pas rempiler 2 heures derrière la même chose, c'est sûr. Mais il y a une véritable énergie. Et alors moi, j'ai trouvé... pour déposer ça, parce que c'est important aussi de parler de ça, de comment on dépose, mais même pour les soignants, comment on dépose, comment quand on quitte une chambre, on part pas avec les valises de souffrance ou de la personne, et comment on dépose ça. Et moi j'écris beaucoup, alors c'est mon lutin qui écrit, c'est assez féerique, mais j'écris beaucoup les belles rencontres, et puis on est souvent en lien entre une étoile pour discuter, débriefer des difficultés qu'on a eues ou des bons moments, voilà. Et puis j'ai aussi une amie qui est psychologue que je vois de temps en temps, voilà, pour aussi en parler. Voilà.
C'était un reportage à l'hôpital Fleyrat avec Emmanuel de l'association Nétoile. À vous les Burgiens, c'est terminé. On vous prépare pour la semaine prochaine une émission spéciale Tourisme dans l'Ain. Vous pourrez écouter différents acteurs clés du tourisme et des reportages dans des lieux emblématiques, des grottes et un monastère notamment. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous lundi prochain. Bonne semaine sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Les personnes qui arrivent d'Afrique, les personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.